passionnée. Elle savait, elle sentait que c'était vraiment sa grand-mère qui venait la voir en rêve. Sa maman me l'a confirmé. Sabrina lui répétait depuis des semaines, « Maman, je sens que je vais partir, ça va être mon tour. Grand-mère veut pas me lâcher, elle me lâchera pas. » Olivia ne peut s'éterniser dans la chambre et doit quitter Sabrina et sa maman. Elle promet de revenir à la fin de son service. Discrètement, parce que ce n'est pas son rôle. Pourtant, ces quelques phrases échangées avec spontanéité et naturelle ont permis une conversation pleine d'espoir. Un partage simple et pourtant essentiel entre une jeune femme qui a connu la mort de son compagnon et le deuil, et une autre confrontée à la maladie et tellement en demande d'échange au-delà de la froideur d'une approche médicale purement technique. Des mots profondément humains qui demeurent trop rares dans de telles unités. Olivia fulmine. Voilà 3 ans qu'elle est entrée dans le monde médical et quelques mois dans ce service d'oncologie pédiatrique, mais elle ne comprend pas cette impossibilité de parler de la mort entre collègues déjà et encore plus avec les patients. La mort n'est pas le genre de sujet qu'on aborde. Pourtant, on la côtoie tous les jours. Elle est là, devant nos tronches. Sabrina était bien consciente qu'elle allait bientôt partir. Elle voyait que sa santé déclinait de plus en plus et elle profitait des derniers instants. Mais personne du milieu médical n'osait en parler. C'est hallucinant. Il y a une sorte de tabou là-dessus. Et les psychologues, les unités de soins palliatifs? Je pense qu'en général, ils abordent les questions liées à la fin de vie de manière assez classique. Ils ne parlent pas de la mort, de son cheminement en lui-même, de cette dimension spirituelle. Si ça continue après, il faudrait peut-être en parler, non? Mais bon, je n'ai pas non plus une grande expérience. J'ai juste accompagné mon copain jusqu'au bout. La remarque d'Olivia est sincère, pas du tout sarcastique. Tout au long des semaines qui suivent, Olivia multiplie les visites à Sabrina. Elle prend l'habitude d'achever son service avec elle en fin d'après-midi. Mais la plupart du temps, la jeune fille est plongée dans la somnolence à cause de la douleur et des traitements de confort qu'elle reçoit. Un simple échange de mots devient alors compliqué. Il est de plus en plus dur d'anticiper son état. D'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre, Sabrina passe d'une grande lucidité à un état de souffrance trop insupportable. Alors, elle est placée sous sédation. À peine un mois après ses premiers échanges avec Olivia, Sabrina décède un matin, paisiblement, dans son sommeil. Peut-être dans les bras de sa grand-mère. Le mois qui suit, plusieurs infirmières du service confient avoir rêvé de Sabrina. À une aide-soignante, elle est ainsi venue dire qu'elle allait bien, mais qu'elle avait été obligée de partir. Un rêve qui a bouleversé la collègue d'Olivia, d'ordinaire peu ouverte à ce genre de sujet. « Sa mort m'a beaucoup touchée, même si on est censé se protéger et rester éloigné. » Ces discussions que vous avez eues avec Sabrina, et de manière plus générale, le fait de côtoyer la mort dans ce service, ce n'est pas trop dur à vivre pour vous? Ça doit raviver le souvenir de votre ami défunt? Forcément. D'ailleurs, des proches me disent que je devrais me protéger. Ils ne comprennent pas comment je le vis, parce que je le vis bien. Je peux envisager qu'on s'inquiète après ce que j'ai vécu, mais bizarrement, je pense que ce n'est pas un hasard si on m'a proposé ce poste en oncologie pédiatrique. C'est lié à ce que j'ai vécu avec mon copain. Olivia aura vécu une belle histoire d'amour avec Gauthier. Une histoire courte, mais l'amour se mesure-t-il à sa durée? Gauthier avait 24 ans quand il est décédé. Il était pâtissier, travaillait à Paris dans le prestigieux hôtel Bristol et voulait devenir chef pâtissier. Il avait participé à la 2e saison de l'émission « Qui sera le prochain grand pâtissier ?» diffusée sur France 2. plus jeune concurrent de l'émission, ce beau jeune homme aux yeux bleus était arrivé dans le dernier carré de tête. La maladie s'est déclarée début juin 2014, peu de temps après qu'ils s'étaient rencontrés, Olivia et lui. Dès lors, la vie s'est arrêtée. Mais bizarrement, il était hyper serein. Olivia et Gauthier vivent une histoire intense malgré la distance. Lui habite Paris, elle Montpellier, et la maladie. Elle ne change rien à leur engagement réciproque, au contraire même. C'est une évidence pour Olivia. Elle sera présente à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Mais malgré les chimiothérapies, puis une opération en novembre, l'état de santé de Gauthier décline. La maladie progresse vite dans ce corps jeune. Début décembre, pour être soulagé de ses souffrances, il est endormi artificiellement pour quelques jours, disent les médecins. Il ne se réveillera jamais. Gauthier s'éteint dans son sommeil le 15 janvier 2015. Olivia reste avec lui jusqu'au bout, dans une relation d'une rare beauté qui se poursuit encore. Depuis qu'il est parti, j'ai l'impression qu'il est toujours là, en fait. Au début, les 2 à 3 jours qui ont suivi son décès, j'ai vraiment eu cette impression qu'il était là. Je ne sais pas comment expliquer. Je sentais une présence, comme s'il observait. Comme s'il vous observait. C'est vraiment difficile de trouver des mots pour parler de cette sensation, parce qu'il n'y avait pas de signe perceptible. Mais voilà, pour moi, il était présent. Je le voyais aussi beaucoup dans mes rêves, au tout début. Comment cela se produisait-il ? Il arrivait que je me réveille en pleine nuit, en ayant la sensation d'émerger d'un sommeil très profond, et je m'entendais lui parler. En fait, je savais que je lui parlais.
Dans vos rêves ?
Je savais que je venais de lui parler. En me réveillant, dès que je retrouvais ma conscience normale, tout se déconnectait et j'oubliais ce qui venait juste de se passer dans mon rêve. Mais je savais avoir rêvé de lui. Une nuit, je me suis réveillé très apeuré, parce qu'il me semblait qu'il voulait me montrer ou m'expliquer quelque chose sur sa mort. Je me souviens juste de ça. J'ai eu peur, alors j'ai refusé. « Non, c'est trop choquant, ne me montre pas, je ne suis pas prête. » Et je me suis réveillé, et puis j'ai oublié l'essentiel du rêve. Mais c'était hyper puissant. Et c'est arrivé plusieurs fois.
Plusieurs rêves ?
Oui, plusieurs fois. J'ai eu l'impression qu'il essayait de me faire passer un message.
Comment voyez-vous ces rêves ? Vous pensez que c'est vraiment lui ?
J'aimerais bien en être sûr à 100%, mais c'est plus une intuition du cœur. En fait, avec Gauthier, on ne peut pas dire que j'ai eu de preuves réelles, mais plutôt ses rêves, ou alors ce qu'on appelle des signes, des synchronicités troublantes qui touchent directement notre intime conviction. C'est personnel, et du coup, ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Mais c'est une sensation étrange et bienfaisante. À chaque fois que j'ai l'impression d'en recevoir, ça me fait sourire.
L'expérience la plus marquante pour Olivia se produit juste après la mort de Gauthier, alors qu'elle vient de rentrer de Paris et a retrouvé son appartement de Montpellier. La douleur est intense, le manque et la révolte terribles. Olivia n'a pas vu sa famille depuis un moment, enfermée dans sa tristesse.
Cette nuit, Olivia est passée dans sa chambre, laissant la télé allumée en fond sonore dans le salon, après avoir essayé de se changer les idées devant un film. Elle est perdue dans ses pensées quand elle est surprise d'entendre le volume du son subitement augmenter. « J'invente rien, hein, je vous assure. Je ne suis pas une fille perchée, mais vraiment, le son est monté beaucoup plus fort tout d'un coup. »
Interpellée, Olivia se sent en outre poussée à retourner dans le salon, avec une sorte de pensée en boucle dans la tête.
Intérieurement, je me disais, « Va voir la télé, va voir la télé, va voir ce qui se passe dans le salon. »
Le Poste diffuse la toute fin d'un film qui ne dit rien à Olivia. L'image est d'une luminosité particulière, un contraste assez marqué et chaud, couleur sépia. Une femme est de dos qui s'éloigne sur un chemin, tandis qu'une voix off masculine, au ton grave, poursuit un monologue. « Merci pour l'amie que j'ai connue. Veillez sur elle comme vous avez veillé sur moi. » Olivia est saisie. « Je vais pouvoir reposer en paix, sachant que j'ai bien employé mon temps sur terre. J'ai mené un combat juste. Je ne me suis pas écarté du chemin. » Ça m'a vachement troublé. C'était pour moi, ces mots. Et puis surtout, pourquoi le son de la télé avait subitement augmenté à ce moment? Je n'arrive pas à m'expliquer comment ça a pu se produire. Et c'est tellement frappant. Des recherches sur Internet lui permettent de découvrir qu'il s'agit du film « Le livre des lits », réalisé par les frères Albert et Allen Hughes. À la toute fin, juste avant le générique, Solara, l'héroïne jouée par Mila Kunis, marche sur une route dans un soleil couchant, jusqu'à s'effacer et disparaître. Merci pour l'amie que j'ai connue. Veillez sur elle comme vous avez veillé sur moi.
Devant ma télé, j'étais bouleversé, en pleurs. Je ne comprenais pas ce qui se passait.
Son premier réflexe est d'attraper son portable pour tout raconter, tout de suite, à quelqu'un.
Mais immédiatement, je me suis senti hyper idiote, parce que comment j'allais expliquer ça? J'allais envoyer un SMS en racontant que le volume sonore de ma télé avait subitement monté et que j'avais entendu ces mots.
Alors, qu'avez-vous fait?
J'en ai parlé à ma sœur. J'avais besoin de le partager. C'était tellement fort pour moi.
Comment a-t-elle réagi?
Je pense qu'elle m'a cru un peu timbré. Ma mère, en revanche, a été d'accord avec moi pour trouver ça assez troublant et beau. Le doute fera toujours partie intégrante de nous, comme l'espoir, en fait. Le doute et l'espoir sont étroitement liés. L'espoir est toujours là, même quand rien ne va, même quand on pense ne jamais pouvoir se relever. Je l'ai vécu avec Gauthier, et je l'ai vu à l'hôpital, auprès des proches, des malades et des patients. Malgré l'anéantissement, l'espoir ne meurt jamais. Ça nous fait tenir. Mais le doute aussi est toujours un peu là.
Oui, ce fameux doute. Je pense qu'avec le temps, il se dissipe. Cela se produit lorsqu'une forme d'équilibre se fait entre nos deux cerveaux. Le deuil, c'est une blessure dont on peut prendre soin en suivant un chemin de questionnement rationnel, en tentant de répondre à nos interrogations par des lectures, des recherches. Et ici, le doute est nécessaire, car il nous protège. Et puis, il y a un autre cheminement, parallèle, plus intime, lui, spirituel, et qui est vraiment propre à chacun. Mais pour commencer à être réceptif à des signes, des sensations subtiles, il convient peut-être déjà d'accepter que cela puisse être possible, et comprendre que le doute ne se supprime pas qu'avec des preuves, mais aussi avec l'évolution du cœur.
C'est-à-dire qu'il faut profiter de ces moments où, dans certaines situations, on est rempli de joie, d'espoir. On sait qu'il se passe quelque chose.
Exactement. Rien ne pourra prouver les sensations de présence de Gauthier que vous dites avoir eues très fréquemment après son départ. Pourtant, elles ont été importantes dans votre parcours, même si vous conservez une part de doute.
Oui, mes doutes m'aident à me remettre en question et à ne pas croire tout et n'importe quoi. Mais je considère qu'ils ne doivent pas être un blocage et, malgré mes doutes, quelque chose en moi sait que Gauthier est à mes côtés.
À échanger avec elle, une chose me surprend chez Olivia. J'ai le sentiment que sa relation avec Gauthier s'inscrit dans le présent, même si cela fait plus de 2 ans qu'il est décédé. Pourtant, cette relation vivante n'est pas chez elle synonyme de déni, de refus de la mort, Au contraire, Olivia a accepté le départ de son compagnon et, dans le même temps, respire la vie, même si son regard se teinte parfois d'un peu de mélancolie. Connaître la mort à 24 ans laisse des traces. Mais il y a, chez cette jeune femme, à la fois cette maturité propre à celle ou ceux qui ont accompagné un proche au seuil de la mort, et de la douceur, une acceptation pleine et franche de cette réalité. Il y a en elle de la joie, de l'émotion aussi, de la jeunesse et de l'exaltation, et la force que donne une relation d'amour intacte. Un amour au présent. Celui d'une jeune femme vivante et d'un jeune homme redevenu un être spirituel ailleurs. Aujourd'hui, Olivia a quitté l'hôpital. Elle a repris les études à Paris. Elle apprend la pâtisserie. Chapitre 16. Accepter la mort. Comme on l'a vu avec Sylvie Ouellet, prendre conscience de sa propre mort une fois qu'elle survient serait la première étape importante. On pourrait y être aidé par le fait que notre âme, appelons-la une dimension subtile de notre être, s'y prépare des mois à l'avance. Mais avoir conscience d'être mort sur le plan physique conduit-il nécessairement, comme par une sorte d'automatisme, à l'accepter? Peut-on ne pas être d'accord? Ne dit-on pas que, par attachement, on peut refuser de quitter ce que l'on aime, son conjoint, un lieu particulier, etc. Accepter sa mort, qu'est-ce que cela signifie? Nous, qui passons souvent notre vie à reporter à plus tard certaines choses qui nous semblent pourtant essentielles, n'est-il pas légitime d'imaginer que l'on puisse arriver de l'autre côté avec des regrets? Ces fameux regrets qui s'expriment si fréquemment en fin de vie? Sans doute, ces éléments à forte charge émotionnelle jouent-ils un rôle dans notre capacité plus ou moins grande à accepter notre nouvel état. Il faut garder à l'esprit que notre état de conscience au moment de la mort et juste après ne serait pas définitif. On peut arriver de l'autre côté inconscient, le rester pendant quelques secondes, voire quelques jours, mais rien n'est jamais irrévocable. À un moment, un déclic se fait qui permet de réaliser que l'on est passé sur un autre plan. Alors, on peut commencer à travailler, à évoluer, à suivre le chemin qui nous attend. De même, on peut être conscient d'être mort et le refuser pendant une période variable. Tant que l'on serait dans ce refus, on n'avancerait pas. Mais il ne s'agirait pas d'une condamnation à rester figé ainsi à tout jamais. C'est un peu comme lorsque de notre vivant on est en souffrance, troublé par une épreuve qui nous empêche d'avancer. Tant qu'on ne reconnaît pas le problème, qu'on n'en comprend pas la dynamique, on ne peut pas le régler et encore moins évoluer. Il semblerait que ce qui se passe après la mort soit un prolongement de notre manière d'être dans la vie. 1. Comprendre la nature de ce qui nous bloque. 2. L'accepter pour finalement progresser. Pour Sylvie Ouellet, ce n'est pas parce que l'on meurt que l'on devient un grand sage. Pour acquérir cet état après la mort, il faudrait avoir œuvré dans ce sens durant toute notre vie. La mort, en elle-même, est juste un passage que l'on franchit. On abandonne notre corps physique, mais notre monde intérieur, nos émotions, nos pensées demeurent exactement les mêmes au début, précise-t-elle. Je donne souvent cet exemple pour bien comprendre, et il faut le voir comme une illustration d'un mécanisme et non pas un jugement sur la situation. L'alcoolique qui meurt d'alcoolisme, quand il arrive de l'autre côté, généralement, il ne cherche pas d'emblée la lumière, mais il se met en quête d'un bar. N'est-ce pas contradictoire avec le fait de dire que notre âme se prépare à la mort des mois avant? Et puis, n'est-on pas aidé de l'autre côté? Si, mais pour être aidé, il faut voir ceux qui viennent nous aider. Et puis, les pulsions émotionnelles, comme celle de boire ou celle qui nous attache démesurément à un bien ou une personne, parasitent nos pensées et sont susceptibles de nous rendre aveugles à toute aide extérieure. Cette idée est au cœur du livre des morts tibétains. Nos émotions, dont les effets sont exacerbés après la mort à cause de l'absence du corps physique, peuvent produire des schémas de pensée qui nous aveuglent temporairement. Pour les Tibétains, la mort est un moment de métamorphose, de dissolution, où nos émotions deviennent prépondérantes. Colère, désir, peur qui n'ont pas été apaisées durant notre existence terrestre, ne disparaîtraient pas comme par enchantement lors du passage de la vie à la mort, et joueraient un rôle central lors de nos premiers pas dans l'au-delà. Si je comprends bien, psychologiquement, nous restons les mêmes en mourant. Mais ça n'est pas immuable.
Bien sûr, rien n'est permanent. L'alcoolique cherche un bar parce que sa dépendance pulsionnelle l'obnubile.
Il n'y a plus d'alcool de l'autre côté, il souffre donc d'une dépendance sans pouvoir l'assouvir.
Alors, pendant un certain temps, il va s'accoler aux énergies d'alcoolique. Il va essayer de boire par procuration jusqu'à ce qu'un déclic se fasse en lui.
À ce moment-là, il s'attaquera à la problématique qui est la sienne et deviendra conscient des mécanismes de son alcoolisme.
Je parle de l'alcool, mais nous pouvons être obnubilés par toutes sortes de désirs et tourner en boucle dans nos projections.
La durée de cette période de confusion est variable selon l'importance des pulsions qui nous tourmentent. Il faut du temps pour se défaire progressivement des attachements, des désirs et des croyances qui nous retiennent sur Terre. Cet enseignement du livre des morts tibétains me semble pourtant contredire certains récits d'expériences de mort imminente, EMI. Je confie mon trouble à Sylvie. Les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente décrivent unanimement la mort comme un espace de bonheur absolu, une lumière d'amour, et peu importe qu'elle soit alcoolique, plombier ou avocat.
Parce que la nature de l'expérience est totalement différente. Les EMI positives nous montrent la possibilité d'accéder à certains états de conscience modifiés en dehors du corps physique.
Ces états peuvent également être atteints après la mort si l'être est dans le détachement et l'acceptation. Les EMI ne dévoilent donc pas ce qui se passerait systématiquement après la mort. La nuance est immense. Elles peuvent correspondre à une certaine réalité de ce qui se passe après la mort pour les personnes qui arrivent à être en acceptation et dans le détachement. Mais pour celles qui sont inconscientes de ce qui est en train de se dérouler ou celles qui sont dans le refus de cette mort, ce n'est pas le cas. Une expérience de mort imminente, ce n'est pas représentatif de la mort, selon toi ?
Non. Le but et le processus énergétique sont différents.
Une expérience de mort imminente est provoquée par l'âme pour générer une ouverture de conscience et faire revenir ensuite la personne sur Terre avec une vision transformée de la vie. La mort, elle, conduit à quitter définitivement la Terre. Elle exige une longue préparation des corps énergétiques pour permettre le détachement du corps physique et de la matière, préparation qui n'existe pas dans l'EMI, puisque l'objectif est de rester dans le corps physique. C'est pour cela qu'il y a parfois des différences notables entre les récits de médiums qui ont été en contact avec les défunts et les récits d'expériences de mort imminente.
Exactement. Les médiums évoquent parfois des situations qui semblent très éloignées de l'atmosphère lumineuse des EMI.
Cette divergence m'a frappé à de nombreuses reprises, en effet. Cela pourrait s'expliquer, en effet, si l'on considère que les EMI ne représentent pas le scénario incontournable de ce qui se passe dans l'au-delà. Cela rejoint la pensée de certains chercheurs, médecins ou psychologues, mais aussi les enseignements du bouddhisme ou même du chamanisme qui considèrent ces expériences de mort imminente davantage comme des expériences d'éveil spirituel que comme des aperçus standardisés de l'au-delà. Les EMI ne donneraient pas une description définitive et commune de la mort. D'abord, parce que les témoins reviennent, alors que la mort est un phénomène irréversible. Pourquoi dès lors postuler que tous ceux qui ne reviennent pas, qui meurent, ferait la même expérience. Autre élément qui va dans ce sens, seuls 20% des personnes ayant eu un arrêt cardiaque rapportent avoir vécu une EMI. Cela veut dire que pour 80% des personnes en arrêt cardiaque et donc commençant potentiellement à mourir, cela se passe différemment. Pour eux, pas de souvenirs, pas de lumière, rien, juste un état d'inconscience. Quand bien même une expérience aurait été vécue, aucune mémoire n'en subsiste. Comme ces nombreux rêves que l'on fait chaque nuit et qui ne laissent aucune trace consciente. Alors, peut-être est-il plus juste de postuler que l'on arrive dans la mort tel qu'on l'a été dans la vie, et que ses caractéristiques sont aussi variées que le sont les êtres humains. Immédiatement après la mort, on peut être pendant un moment inconscient de cette mort. On peut en avoir conscience, mais la refuser, ou être en colère d'avoir été happé par elle. On peut se trouver confus ou perdu, et ne pas savoir où aller. On peut accepter sa mort, mais ne pas vouloir avancer sur ce nouveau chemin. On peut éprouver une immense fatigue et ressentir le besoin de dormir. Enfin, on peut aussi toucher à des états lumineux et débordants d'amour, comme ceux que rapportent les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Autant de scénarios qu'il existe de profils psychologiques. Il n'y a pas un seul et unique schéma type lumineux et rempli d'amour.